Bien, alors je suis très content d'être ici. Alors peut-être effectivement deux remarques un peu liminaires. D'une part, je vais être un peu redondant avec ce que vient de dire Bernard, parce que je pense qu'on partage le même logiciel idéologique, et notamment ce qu'il vient de dire sur la CMU, on pourrait y revenir, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. D'autre part, c'est que l'on est en phase postprandiale, qu'il est samedi après-midi, qu'il fait beau, et que donc je ne vais pas tenir le titre qu'a donné autoritairement Louis pour une autre politique du médicament. Autrement dit, je ne vais pas refonder sous vos yeux individuellement la politique du médicament au niveau national et bien sûr au niveau mondial. Bon. Donc je ne voudrais pas créer des déceptions. Voilà. Alors, peut-être pour commencer... Je voudrais dire qu'il est assez frappant en fait de constater que les débats aussi récurrents que vifs sur les faits et méfaits du capitalisme pharmaceutique sont, à l'instar de ceux de la finance, souvent à forte connotation morale. Les nombreux essais, enquêtes journalistiques, témoignages soulignent à l'envi les dévoiements moraux et le cynisme des big pharma, et cynisme d'autant plus condamnable qu'il a pour enjeu la santé, la maladie et la mort. Bien. Ici, on dénonce les conflits d'intérêts des experts chargés de l'évaluation du médicament, là, les pratiques de corruption, là encore, l'agressivité commerciale des laboratoires pharmaceutiques à l'égard des prescripteurs à l'origine de profits jugés scandaleux. On comprend que le registre de l'indignation morale est bien ajusté aux préoccupations des journalistes et des essayistes, soucieux de rencontrer un large écho dans une opinion publique, globalement peu au fait de la complexité des processus de décision en santé publique. À cet égard, la controverse qui a suivi la campagne ratée de vaccination massive contre le virus H1N1 a été assez symptomatique, selon moi. Si beaucoup de journalistes se sont employés, bien sûr avec raison, à débusquer les collusions d'intérêts entre l'industrie pharmaceutique et les experts internationaux et nationaux, peu, par contre, ont souligné combien cette campagne ratée avait aussi pour cause le divorce historique entre la médecine ambulatoire campant un libéralisme de combat contre les assurances sociales et l'État d'un côté, et les institutions et les acteurs de la santé publique de l'autre. Les responsables politiques s'accommodent eux aussi assez bien du registre moral. À chaque scandale, ils ont beau jeu de faire chorale en pointant du doigt les errements professionnels et déontologiques de responsables administratifs qu'ils ont pourtant nommés. À cet égard, les agences sanitaires jouent un rôle de fusible externalisant le risque politique et judiciaire, car placé à bonne distance du politique, ce même politique qui n'hésite parfois pas à s'asseoir sur les avis et recommandations qu'il a lui-même commandés afin de satisfaire d'autres préoccupations, parfois purement tactiques, et ou politiciennes, je fais référence ici par exemple aux usines à roulettes des ministres, les usines pharmaceutiques. Et le jeu des chaises musicales de recommencer à chaque crise ou scandale sanitaire, promettant que cette fois-ci, c'est la bonne, que l'on a trouvé les hommes à la hauteur de la situation. Comme les acteurs politiques, les industriels se satisfont de ce positionnement moral du débat en ce qu'il permet de minimiser la portée des agissements condamnables, ainsi réduits à quelques déviants immoraux promptement licenciés. La croyance dans la transparence et l'efficacité du marché est restaurée, du moins pour un temps. Alors parfois, le schéma explicatif est un peu plus sophistiqué et invoque, en plus de la morale, le mot magique de « régulation ». La régulation, à l'instar de la gouvernance, est un mot qui prolifère dans la santé comme ailleurs. Depuis le milieu des années 90, l'heure est à la régulation des systèmes de santé, dans les rapports des organisations internationales, comme dans tous ceux des commissions d'experts nationaux. Autrement dit, gouvernance et régulation sont les deux mots-clés de la gouvernance néolibérale, enfin de la novlangue néolibérale, qui accompagne le mouvement de privatisation et de libéralisation des systèmes de santé solidaire. Alors s'il y a des ratés du système, comme à chaque crise, c'est qu'il n'est donc pas suffisamment bien régulé. C'est le thème de la vaccine, raillé il y a bien maintenant bien longtemps par Roland Barthes, dans ses mythologies. Il s'agit alors de concéder quelques dysfonctionnements ponctuels pour mieux préserver le système. La régulation a cela d'attrayant qu'elle promet de réconcilier un peu magiquement le marché et l'intérêt général. On ne veut plus augmenter les ressources publiques pour financer de manière juste et solidaire les dépenses de santé, et l'on étend ainsi le champ des assurances maladies complémentaires. On constate et déplore que plusieurs millions de personnes n'ont pas accès à une mutuelle ou doivent alors renoncer à des soins utiles en raison de contrats de complémentaire maladie bas de gamme. Eh bien, régulons ce marché, rendons-le transparent, rendons-le concurrentiel, là où on oublie que c'est le marché lui-même qui génère l'opacité et les rentes de situation. Les médecins libéraux multiplient les refus de soins aux bénéficiaires de la CMU-C ou de l'aide médicale aux étrangers, tout en multipliant les actes de façon à accroître leurs revenus. Eh bien, l'heure est à la régulation de la médecine de ville. Et donc, on découvre que l'industrie pharmaceutique a réussi à obtenir des autorisations de mise sur le marché pour des médicaments dont on découvre qu'ils sont soit dangereux, soit inefficaces. Eh bien, renforçons le cadre de régulation du marché du médicament. Mais la régulation dans la santé, comme dans la finance, semble être une ligne de fuite dans tous les sens du terme. A-t-on à l'esprit un régulateur qui n'a pas été in fine capturé par les intérêts qu'il était censé réguler ? Autrement dit, on pourrait, et je vais y revenir, voir la régulation comme un mot totem ou un alibi qui sert à justifier ou à légitimer la rétrocession au marché privé, au secteur privé, des activités de services publics. Émerge donc une double question de ces lieux communs du débat public, celle de la moralisation et celle de la régulation du capitalisme pharmaceutique. Alors, première question, d'abord, est-ce que la vertu, pour paraphraser l'économiste Frédéric Lordon à propos de la finance mondialisée, est-ce que c'est la vertu qui sauvera le monde des systèmes de santé solidaires ? Ceux-ci sont en effet pris en étau entre l'obsession de la réduction des déficits publics et des fameux prélèvements obligatoires, et de l'autre, les intérêts privés qui auraient tendance à les considérer comme des vaches à lait. Instiller de l'éthique, de la morale, de la déontologie, permettrait-il de gérer ces tensions inévitables entre solvabilisation sur fonds publics de la demande d'un côté et offre de soins et biens médicaux largement privés et à but lucratif de l'autre ? On peut en douter et poser le problème dans ces termes moraux pourrait fort bien être une impasse. Un peu de vertu, avait écrit Frédéric Lordon, avec le style incisif qu'on lui connaît, quelques examens de conscience et il n'y paraîtra plus. L'heure est à la catéchèse. L'avantage avec le moralisme, c'est qu'on n'est jamais déçu. Il est d'une inoxydable mièvrerie, d'un bon sentiment toujours aussi tiédasse, et pour finir, d'une bêtise à faire peur. Car dans cette affaire, ce sont moins les individus qu'il s'agit de chapitrer que les structures qu'il faut mettre en cause. Des travaux sociologiques, que j'ai revisités pour vous, récents, suggèrent ainsi que les conflits d'intérêts non déclarés et les pratiques de corruption, certes indéniables, pourraient bien être l'arbre qui cache la forêt de la complexité des relations d'interdépendance qui unissent ces associés rivaux que sont les industries du médicament, les décideurs politiques, les professionnels de santé et les acteurs chargés de la régulation. Autrement dit, le modèle corrompu corrupteur est un peu simpliste et les canaux d'influence sont beaucoup plus indirects, beaucoup plus diffus et à plusieurs voies. De même, il n'y a pas d'un côté des gentils cliniciens hospitaliers, intègres, complètement dédiés à la science et à son progrès, et de l'autre, des laboratoires manipulateurs déployant des armées de visiteurs médicaux en ville comme à l'hôpital. Voilà. Les cliniciens et les laboratoires sont en effet pris dans des logiques de négociation et d'instrumentalisation réciproque. Les cliniciens profitent souvent des essais thérapeutiques financés par les laboratoires pour tester des molécules anciennes qui n'intéressent plus les laboratoires. Parfois, ils sont en mesure même d'imposer leur propre agenda de recherche aux laboratoires. Leurs relations sont donc plus complexes que celles du corrupteur et du corrompu. Bref, la scandalisation morale ne doit pas l'emporter sur l'analyse des relations d'interdépendance qui lient les acteurs du complexe médico-industriel. Le pouvoir n'est pas une chose que l'on détient en propre, mais une relation entre des acteurs inégalement dotés en ressources de diverses natures. Autrement dit, le pouvoir est une relation sociale. Alors si le salut sanitaire, si j'ose ce pléonasme, ne vient pas de la vertu des acteurs, va-t-il venir de la régulation ? On mettra de côté l'hypothèse de l'autorégulation des marchés, qui vient de démontrer avec éclat son caractère idéologique, pour évoquer seulement ici la régulation du marché du médicament par des agences publiques spécifiquement dédiées à cette mission. On notera d'abord qu'il est assez étonnant de prétendre confier des tâches techniquement et politiquement ardues de régulation de géants ou de multinationales privées à des États dont on a cessé depuis les années 1980 de stigmatiser l'inefficacité congénitale pour mieux privatiser les entreprises et services publics et ainsi amoindrir leur capacité d'action. Réguler, en effet, cela suppose beaucoup de moyens, notamment en termes d'information, étant donné que les industriels ont toujours un temps d'avance et bénéficient, comme l'on dit en économie, d'asymétrie d'information très favorable, mais cela nécessite aussi beaucoup de moyens matériels et humains, alors que l'heure est à l'amaigrissement des services publics. Certes, il faut le concéder, le cadre législatif et réglementaire, constitutif de l'invention du paradigme de la sécurité sanitaire, a été considérablement renforcé depuis la fin des années 80, en France en particulier. Mais il faut aussi constater que cela n'a pas empêché la multiplication des scandales qui ont généré une indéniable instabilité des agences sanitaires en perpétuelle réforme. Élaborer une autre politique du médicament, ce que je n'ai donc aucune prétention à faire ici, aujourd'hui comme demain d'ailleurs, implique d'abord, toujours en paraphrasant Lordon, d'opposer l'enfer des structures à l'inanité du moralisme et dans une moindre mesure au discours tiède de la régulation. En effet, il faut déjà prendre acte que l'industrie pharmaceutique agit conformément à ses intérêts économiques et que les ressorts de ces intérêts sont désormais bien identifiés et ont été bien évoqués au cours de ces journées. Je ne fais que les reciter ici. L'expiration des brevets et les politiques publiques de développement du marché des génériques. Environ 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires sont ainsi concernés par les génériques entre 2007 et 2011. La fin des blockbusters traditionnels et l'avènement de traitements ciblés avec une médecine de plus en plus individualisée et sur mesure, avec le passage de la chimie fine traditionnelle aux biotechnologies, aux biosimilaires et autres produits naturels. Une augmentation sensible des coûts de recherche et développement qui a débouché sur de nombreuses impasses sur le plan médicamenteux et des fiascos financiers retentissants. Le renforcement du cadre législatif et réglementaire et l'avènement du paradigme de la sécurité sanitaire conjointement à la judiciarisation des effets secondaires et des procès collectifs de type class action. Les exigences démesurées de rentabilité financière des actionnaires et la prise de pouvoir par les services financiers et marketing. Et enfin, une image profondément dégradée dans l'opinion publique comme auprès des professionnels de santé. Alors évidemment, cette nouvelle donne économique qui menace les fondements de la prospérité future de l'industrie, du capitalisme pharmaceutique, conduit ce dernier à s'engager dans des stratégies industrielles, politiques et commerciales. Concentrations, évidemment, d'abord concentrations industrielles qui ont abouti à créer des multinationales. Actions en faveur de la libéralisation des prix et de démantèlement des prix administrés, notamment par une mise en concurrence des États entre eux. C'est exactement ce qui s'est en train de se passer en France. Allongement de la durée de brevet et freins en tout genre au développement des génériques, pression à l'augmentation des volumes de vente, élargissement du champ des prescriptions des médicaments existants via la pression sur les prescripteurs, publicité auprès des consommateurs, entre guillemets, et banalisation du médicament comme objet de consommation ordinaire, essor du e-commerce et dérégulation en faveur des ventes over the counter, encouragement à l'automédication, qui a d'ailleurs le soutien des pouvoirs publics, soucieux de maîtriser les dépenses d'assurance maladie. Et enfin, cette banalisation du médicament et de sa distribution va de pair avec la multiplication de ces produits frontières mal identifiés que sont les alicaments ou les nutraceutiques, rangés souvent dans la catégorie des compléments alimentaires, comme avec le disease mongering. Et donc, comment s'étonner que l'industrie pharmaceutique se mobilise politiquement? Alors en France, c'est la transformation du SNIP en LEM, mais aussi la création du LIR ou du G5, hein, regroupant les 5 principaux laboratoires pharmaceutiques français, au niveau national comme au niveau international, souvent relayés par les organisations patronales, par ailleurs très écoutées du côté des organisations internationales et notamment de la technocratie bruxelloise. Mais aussi, elle est défendue, cette industrie, par certains gouvernements, et non des moindres, comme les États-Unis, décidés à ne pas faire financer la recherche et développement par les seuls consommateurs américains. Autrement dit, elle se mobilise commercialement, mais aussi politiquement, et ici, on l'a bien vu tout au long de la matinée, la distinction, encore une fois, entre l'économique et le politique, entre le marché et l'État, n'a pas plus grand sens ici qu'ailleurs. Mais ce qui pose problème, c'est moins la poursuite, ça sera ma thèse, ce qui pose problème, c'est moins la poursuite par tous les moyens, par l'industrie, de ses intérêts industriels et commerciaux, que la faible capacité des États, et plus généralement de la sphère publique, à s'opposer à ces logiques de prédation des ressources publiques. Cet affaiblissement, il a été évoqué, il a deux ressorts principaux. D'une part, effectivement, l'industrie pharmaceutique s'est internationalisée avec la mise en place de chaînes de production, de distribution de plus en plus internationalisées contre des régulations qui sont encore largement nationales. Donc on retrouve ici, effectivement, cette dialectique de l'international et du national, avec des phénomènes de mise en concurrence des États entre eux pour des législations de plus en plus favorables aux intérêts de l'industrie. Mais de façon connexe, et c'est évidemment la deuxième ressource d'affaiblissement, le secteur privé s'est concentré alors que, justement, les États s'affaiblissaient. Hein. Il faut savoir, et tout à l'heure Bernard l'a dit, c'est que le médicament a une double face, c'est une richesse, mais c'est aussi une dépense par ailleurs socialisée, et que dans un contexte économique faible et de chômage élevé, le chantage à l'emploi, aux délocalisations et à l'exportation fonctionne à plein auprès des acteurs politiques. Au passage, on voit bien que la politique du médicament, la politique pharmaceutique, trouve sa source, il faudrait aussi questionner la perte d'autonomie des activités politiques, et notamment, par exemple, des surenchères dans les campagnes électorales qui rendent de plus en plus dépendants les candidats dans tous les pays, dépendants des financements de bailleurs privés, parmi lesquels figurent les industriels de la pharmacie. Les mobilisations industrielles nécessitent donc une contre-mobilisation publique et plus largement citoyenne, dont la boussole doit être l'élargissement et le renforcement de l'autonomie de la sphère publique et de ses valeurs constitutives. Transparence, pluralisme, délibération, bon usage des deniers publics contre la logique de prédation des ressources publiques par les forces du marché, entretenant consciencieusement l'utopie de la santé parfaite. Ce développement appelle un préalable. Le refus a priori et obstiné de l'augmentation des ressources publiques de façon à financer de manière solidaire les dépenses de santé n'est pas tenable. En effet, des études économiques récentes et plutôt orthodoxes ont montré à quel point la focalisation des débats publics sur les seuls coûts de la santé était infondée, pour ne pas dire idéologique, car en effet, cette même science économique, souvent mise à contribution pour justifier les politiques néolibérales, eh bien, même cette science économique orthodoxe a montré qu'il est très rentable économiquement et socialement, d'investir dans la santé. Et je renvoie là, ici, aux travaux d'une de mes collègues de Dauphine, Brigitte Dormont. Néanmoins, dire cela ne doit pas conduire à légitimer la logique de prédation de l'assurance maladie par les intérêts industriels et professionnels, étant donné l'ampleur des autres besoins sociaux à financer. La collectivité doit permettre l'accès aux vraies innovations et non aux fausses innovations promues à grand renfort de publicité et à coup de pression sur les décideurs publics. Dès lors, la question du périmètre d'intervention de l'assurance maladie obligatoire et de celui des assurances maladie complémentaires, de ce qui relève de la solidarité nationale et de ce qui relève de la responsabilité individuelle, ne doit pas être tabou. Je sais que les libéraux et les intérêts qui s'emploient à détruire l'héritage du Conseil national de la Résistance promeuvent cette fameuse notion de panier de soins et bien remboursable, servant une vision très restrictive du champ de la solidarité qui serait recentrée sur les plus malades et les plus démunis, pas intéressant pour les assurances privées, et l'extension corrélative du champ d'intervention des assurances maladies complémentaires. Cette promotion libérale a conduit les défenseurs de la sécurité sociale, et à mon avis à tort, à rejeter cette notion perçue comme l'épouvantail du rationnement des dépenses publiques de santé. Plusieurs arguments à l'appui de cette thèse. D'abord, le panier de soins et de biens remboursables existe déjà, mais sans avoir jamais été l'occasion d'un débat transparent et fondé sur des données solides. Les plus modestes ne sont-ils pas condamnés à renoncer à des soins dentaires utiles ou à soigner leur vue parce que ces soins sont mal remboursés, hein, ou alors, à soigner leur vue alors que des médicaments au SMR nettement insuffisants, à l'inverse, sont remboursés même à des taux faibles et étranges. En effet, au passage, qu'est-ce que ça veut dire que de rembourser un médicament à hauteur de 65%, 35% ou à 15%, est-ce que ça veut dire qu'il est efficace à hauteur de 65%, 35% ou 15%? L'assurance maladie n'a donc pas vocation à grossir indûment les profits de l'industrie pharmaceutique et les revenus des professionnels de santé, en particulier libéraux, aux dépens d'autres dépenses collectives utiles. Une exigence de bonne gestion des deniers publics n'est donc pas antisociale. En cela, les déremboursements de médicaments ne sont pas a priori légitimes dès lors qu'ils s'appuient sur des évaluations incontestables, transparentes et contradictoires. Deuxième point. Il faut noter qu'en France, on a une spécificité française, c'est que les assurances maladies complémentaires interviennent comme copayeurs des soins et des médicaments pris en charge par la sécurité sociale, donc jugé utile, voire nécessaire. Et il faudrait donc en finir avec cette situation confuse et en distinguant deux et seulement deux catégories de médicaments, celle des médicaments utiles et donc prise en charge à 100% et celle des médicaments dits de confort qui relèveraient dès lors de l'assurance privée. Mais bien sûr, il faut, au contraire des libéraux, envisager une hausse régulière des cotisations et ou de la contribution sociale généralisée, bref, des ressources publiques, pour assurer le plus large périmètre possible de la solidarité nationale. Cela dit, on peut ici évoquer, très modestement, mais en insistant sur le fait que l'on ne peut pas dissocier la politique du médicament des enjeux plus globaux de la réorganisation complète de notre système de santé, on peut évoquer donc ici très modestement quelques pistes de politique, d'une nouvelle de refondation de la politique pharmaceutique. Alors je n'insisterai pas évidemment sur le premier point qui a été largement abordé au cours de la matinée, qui est effectivement de revoir la politique de brevets et de promouvoir instamment, surtout en France où ils ont très peu percé, les génériques. Mais j'insisterai plutôt ici sur l'investissement dans la recherche publique. En effet, les industries du médicament financent aujourd'hui 99% de la recherche thérapeutique, tandis que s'affaiblit le potentiel de recherche publique malgré les déclarations politiques en faveur de l'économie de la connaissance. L'INSERM, créé en 1964, emploie 13 000 personnes, dont 6 000 chercheurs, pour un budget de l'ordre de 700 millions d'euros. Cela peut paraître considérable, mais il faut rappeler que ces moyens sont sans commune mesure avec ceux des NIH américains, presque 60 fois supérieurs, alors que le rapport du PIB entre les deux pays est de 1 à 7. Si on insiste à loisir sur la nécessaire rationalisation des structures publiques de recherche et de leur regroupement selon le schéma « Big is beautiful », les moyens, souvent, ne suivent pas. Il y a encore quelques années, les fonds alloués par l'État couvraient la moitié des besoins de la recherche publique. Aujourd'hui, c'est moins du tiers. La paupérisation de la recherche publique est à la fois l'opérateur et le révélateur de la baisse des vocations scientifiques, alors que l'on assiste au départ massif en retraite des chercheurs qui nécessiterait le recrutement de 8 000 à 17 000 nouveaux chercheurs. La recherche publique est donc engagée dans un appauvrissement qui aggrave la recherche, la dépendance à l'égard de la recherche et développement de l'industrie pharmaceutique. Troisième point, troisième piste, renforcer et démocratiser les instruments d'encadrement du secteur. Je ne parlerai donc pas ici de régulation. Il me semble qu'il serait utile de réfléchir à l'émergence d'un cadre de régulation supranational, au moins européen, qui mutualiserait les moyens matériels, humains, mais aussi d'expertise. Une sorte de FDA, même si la FDA n'est pas complètement exempte de critique, mais une sorte de FDA à l'européenne, bien plus ambitieuse que l'actuelle EMEA, qui serait un contre-pouvoir plus efficace à la puissance des laboratoires. Pour l'instant, le régulateur court après les régulés, qui ont toujours un temps d'avance, ne serait-ce que du point de vue des connaissances. Et surtout, la faiblesse de l'expertise interne appelle le recours à l'expertise externe, assurée par des grandes figures médicales qui ont toujours des liens, à un titre ou à un autre, avec les industriels. Il est en effet difficile de trouver des experts médicaux qui ne sont pas liés d'une façon ou d'une autre à l'industrie. Cette asymétrie de connaissances est renforcée par les limites matérielles et humaines des agences. Je fais par exemple ici référence aux déclarations de l'ancien directeur de l'AFSAB, Jean-Marin Bert, mis en cause après l'affaire du Vioxx. Le succès même de la démarche de sécurité sanitaire a engendré une diversification des besoins associés au fonctionnement des nouvelles agences, alors même que les restrictions budgétaires pèsent plus fortement sur les finances de l'État. Est-ce que cet appauvrissement relatif, ce contraste croissant entre d'un côté des missions qui s'élargissent et des moyens qui stagnent ou qui parfois baissent, résulte d'une incohérence de l'action publique ou d'une volonté d'affaiblir le cadre de régulation publique? La question reste en suspens. Ensuite, et c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant, il me semble une autre piste concernant l'encadrement du marché reviendrait plutôt qu'à la nier à organiser la confrontation des intérêts en présence dans des lieux institutionnalisés, ouverts et transparents. En effet, on a évoqué tout à l'heure la conception bien française d'un intérêt général qui transcenderait les intérêts particuliers, conception bien différente du bien public qui prévaut dans les pays, par exemple, anglo-saxons, où l'intérêt général ressort de la confrontation ouverte des intérêts particulier. Et c'est la raison pour laquelle autant le lobbying a mauvaise presse en France qu'il a bonne presse, par exemple, aux États-Unis, dans un cadre qu'on dira ouvertement pluraliste. Or, il se trouve que les agences sanitaires en France, initialement, les agences de sécurité sanitaire, visaient une triple ambition, une triple ouverture, une ouverture administrative, c'est-à-dire retirer les décisions de l'opacité des arcanes de l'administration, une ouverture scientifique et une ouverture médicale, c'est-à-dire notamment l'ouverture des évaluations et de la recherche médicale aux associations de malades. À cet égard, la démocratie sanitaire reste encore embryonnaire et, me semble-t-il, la démocratie sanitaire n'est jamais qu'un contrepoint symbolique à l'évidement progressif de la démocratie sociale et d'une démocratie représentative bien faiblarde. Mais il faut aussi poser, ce qu'on ne pose jamais, la question de l'indépendance des associations de malades à l'égard de l'industrie. Or, il se trouve que bien souvent, ces associations de malades ont des liens, eux aussi, très forts avec les industries quand ils n'ont pas été créés ex nihilo par les laboratoires pharmaceutiques. Ensuite, me semble-t-il, à l'intérieur de ces lieux, dans ces agences qui seraient des lieux de confrontation des intérêts et des logiques, il me semble qu'il faudrait aller vers une forme de pluralisme de l'expertise. C'est-à-dire que jusqu'alors, l'expertise médicale, et même souvent étroitement clinique, continue de dominer ces agences. Alors même que, par exemple, l'expertise économique, et notamment médico-économique, l'évaluation coût-bénéfice des médicaments, n'a pas encore trouvé sa place vraiment au sein de la Haute Autorité de Santé, et il me semble qu'il vaut mieux une évaluation médico-économique explicite, rigoureuse, qui explicite ses critères, plutôt que des décisions de déremboursement décidées dans le secret des cabinets ministériels, en fonction soit d'objectifs comptables de maîtrise des dépenses publiques, soit de considérations électoralistes. Bien plus, il me semble aussi que l'on pourrait mobiliser d'autres formes d'expertise, et là je plaide pour ma paroisse, d'expertise de sciences sociales. J'ai été associé à des réflexions au sein d'une commission de travail à la Haute Autorité de Santé pour justement promouvoir l'expertise des sciences sociales à l'intérieur de ces agences, et notamment de la Haute Autorité de Santé, et notamment pour promouvoir les aspects sociaux dans les critères d'évaluation du médicament, et notamment, par exemple, d'introduire des réflexions autour des inégalités de santé et d'accès aux soins lorsqu'on évalue les médicaments. Il faut, et je continue toujours, instaurer une évaluation permanente du médicament. Pour l'instant, on est quand même dans une situation singulière où l'évaluation, à l'instant, ne se fait qu'au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché. Mais finalement, les données de la science évoluant et le retour de l'expérience ne viennent que rarement sanctionner une évaluation permanente des médicaments. Et enfin, me semble-t-il, il me reste combien de temps? Je sens que tu me mets la pression. Non,
oh, non,
non. Non, du tout, c'est moi qui suis paranoïaque, en fait.
T'as intériorisé.
J'ai pas pris mes cachets, en fait.
Intériorisé quelque chose que je souhaite peut-être moi aussi.
Voilà, d'accord.
Dans,
bon.
Dans mon inconscient. Voilà. Non, tu parles depuis 25 minutes.
Non, j'en ai encore pour 5 minutes, en fait.
5 minutes.
Voilà. Et enfin, me semble-t-il, quelque chose dont on a peu traité ici, dernière piste, une quatrième piste, il faudrait inciter à un bon usage des médicaments, hein, ce qui oblige, il faut le dire, ni plus ni moins, à repenser l'organisation de notre système de santé. Hein, le maintien et même le renforcement des verrous qui limitent l'agressivité commerciale des industriels à l'égard des consommateurs ainsi censés faire pression sur leurs médecins est donc une évidence. Hein. Mais, me semble-t-il, ces verrous doivent être complétés par une véritable éducation citoyenne du point de vue sanitaire. Hein, au moment du déjeuner, étant enseignant à l'université, je mesure chaque jour l'ignorance abyssale de mes étudiants, y compris à des stades avancés de leur formation, souvent en master, sur l'organisation du système de santé, son financement, qu'est-ce qu'une politique de santé publique, qu'est-ce qu'un médicament. Et il me semble que ce vide abyssal est comblé par l'intoxication de l'industrie, du complexe médico-industriel. Il faut donc à l'évidence une vraie éducation populaire, mais aussi initiale, qui mettrait l'accent sur quelques idées clés, et notamment une qui me semble souvent oubliée, c'est que la santé n'est pas la médecine, et que 70% des gains d'espérance de vie ne sont pas attribuables aux soins curatif, mais à l'amélioration des conditions de travail, de vie, de logement. Autrement dit, sortir le débat de la santé de son étroit périmètre curatif et médical. Autrement dit, cette piste nécessiterait effectivement d'accroître les défenses intellectuelles des citoyens en les formant les plus précocement possible aux enjeux de la réforme du système de santé. Ensuite, évidemment, dans le bon usage des médicaments, il me semble, mais c'est souvent dit, qu'il faut favoriser l'indépendance des prescripteurs par rapport aux pressions des laboratoires et de l'industrie. Le constat est bien connu. Alors, je le répète juste, il faut le mentionner. C'est la question d'abord de la formation initiale des médecins dans le cadre des CHU, dans des univers hautement techniques et qui valorisent fortement la spécialisation biomédicale. Mais c'est aussi le questionnement de la force de frappe de l'industrie via les visiteurs médicaux, du financement de la presse professionnelle médicale, mais aussi de la formation continue. Or, là encore, les actes ne suivent que rarement les discours. Mentionnons par exemple ici que la faiblesse de l'investissement de l'État dans la formation médicale continue, quelques dizaines de millions d'euros, contraste avec les 300 ou 400 millions d'euros mis sur la table par les laboratoires pharmaceutiques pour assurer la formation continue des médecins. Une autre piste, toujours dans le bon usage des médicaments, me semble-t-il, et c'est beaucoup plus ambitieux, et assez peu évoqué, ça a été assez peu évoqué ici, c'est qu'il faut impérativement refonder la médecine de premier recours. Autrement dit, changer les pratiques de prescription des médecins suppose de changer aussi leurs incitations économiques à la prescription. Or, la formation des médecins dans les CHU, je l'ai dit, couplée à la liberté de prescription et couplée au paiement à l'acte, favorise inévitablement des visites courtes, fortement prescriptrices. Il faut donc promouvoir d'autres formes d'exercice de la médecine, plus collectives et plus pluriprofessionnelles, rémunérées autrement qu'à l'acte, par exemple au forfait. Et de fait, cette évolution est déjà bien amorcée dans les pays, par exemple, nordiques, ce que l'on appelle les soins primaires. Et comme par hasard, on y voit des prescriptions de médicaments moins fréquentes, on y voit aussi un plus grand recours à la prévention. Enfin, je me permets, pour conclure, de citer le médecin Martin Winkler, qui, dans un entretien récent, a fait une analogie osée et risquée entre le monde de la santé et l'armée. Il y a deux types, je le cite, ouvrez les guillemets, il y a deux types d'armées. L'armée de métier, avec des gens qui croient en la nécessité de défendre la nation, et l'armée de mercenaires. La première a des règles internes, avec des choses qu'en principe, il est impossible de faire. Par contre, si vous engagez des mercenaires, ils ne viennent que pour l'argent. C'est la même chose avec le système de santé. On a une organisation publique au sein de laquelle devraient travailler que les gens qui ont envie de travailler dans le service public pour le bien de tous et de toutes, mais aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des étudiants en médecine. On embauche des mercenaires. La question est de savoir si ces gens-là vont servir le service public. Non, car ils n'y sont jamais allés pour faire du service public. On leur présente le service public comme nul et non avenu ou comme une vache à lait que l'on peut traire. Ce constat est fort juste, à la seule condition de ne pas insister à l'excès, et comme je le disais en introduction, sur la morale des individus, ce que ne fait d'ailleurs pas Winkler, qui pointe en particulier du doigt la responsabilité de la formation des médecins, notamment libéraux, dans les dérives actuelles mercantiles et consuméristes du système de santé français. En tant que sociologue, je ne peux qu'emboîter le pas et rappeler que la morale, comme la confiance, sont des institutions sociales et non des affaires d'individus. Les libéraux l'ont compris depuis longtemps. Ils ont tenté de casser, avec des succès variables, les institutions de l'État social pour miner les fondements de la solidarité et de la coopération et ainsi favoriser l'émergence de l'individu égoïste, calculateur et rationnel au sens étroit du terme, qui fait les délices et les profits des marchands de la santé. Sur un marché de la santé construit de toutes pièces et solvabilisé par un État prédateur, pour reprendre le mot de James Galbraith, le patient devient un consommateur de soins qui maximise son utilité, le médecin un producteur de soins qui maximise ses revenus, les pharmaciens des épiciers, la grande distribution des discounters pharmaceutiques et les laboratoires des prédateurs du bien public. Aux progressistes revient la lourde tâche d'inventer et d'imposer un cadre institutionnel alternatif qui renforcera l'esprit de service public et ainsi nous permettra d'échapper à ce qu'un politiste américain a appelé le grand transfert de risque qui laisse l'individu seul face à la maladie. Je vous remercie.